Europe 1.
Nous pensons toutes et tous connaître nos proches, notre famille et notre histoire. Pourtant, à la perte d'un être cher, certaines personnes découvrent des secrets insoupçonnés. Face à ces révélations, ce sont parfois des existences entières remises en question et un futur tout à coup bouleversé. Comment se reconstruire après une vie entière passée dans le mensonge? Comment pardonner à ce proche que l'on pensait connaître? Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'histoire de Sybille. Très fusionnelle avec son père, la jeune femme pensait tout savoir de lui. Mais le jour de son décès, elle a découvert tous les secrets qu'il cachait. Je suis Olivier Delacroix, vous écoutez le podcast « Dans les yeux d'Olivier », alors soyez les bienvenus.
Pour commencer, c'est à Sanguiné, près de Bordeaux, que j'ai rendez-vous avec Sybille. Fille unique adoptée par un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant, Sybille a connu une enfance en tout point heureuse, notamment grâce à un père qu'elle adorait et à qui elle faisait entièrement confiance.
Sybille, bonjour. Comment allez-vous?
Ça va.
Merci de m'accueillir dans cette belle région des Landes, hein, c'est
oui,
ça?
C'est ça, des Landes. C'est avec plaisir.
Vous habitez depuis combien de temps maintenant?
Alors, je viens faire les saisons depuis maintenant à peu près une vingtaine d'années.
D'accord.
Voilà.
Mais autrement, vous habitez...
Bordeaux.
Aujourd'hui, voilà. Vous êtes dans le milieu du vin, me semble-t-il.
C'est ça. Je tiens un magasin de vin, donc je vends du vin, voilà.
Alors, si je suis là, c'est pour évoquer votre histoire, qui a commencé par le décès de votre papa.
Oui, c'est ça. C'est ça, le 29 décembre 2015, quand il est décédé, et bien, le lendemain, j'ai découvert en fait, voilà, la vraie histoire de mon père.
C'était quelqu'un donc, que vous pensiez vraiment bien connaître?
Oui.
Ouais.
Oui. Oui, je pensais, j'aurais jamais pensé qu'il aurait pu me cacher des choses, me mentir. Pour moi, j'ai toujours pensé, même jusqu'à son dernier souffle, j'ai toujours pensé qu'il avait été honnête avec moi.
Quelle relation vous aviez avec lui?
On était inséparables, il était tout pour moi et moi j'avais l'impression d'être tout pour lui. Je prenais pas une décision sans lui, je l'appelais tous les matins, tous les soirs, voire 5 à 6 fois par jour. On était vraiment fusionnels.
Alors vous découvrez que votre père est surendetté.
Oui. Oui.
Et qu'en plus il a entretenu pendant 53 ans des relations extra-conjugale.
Oui, trois grosses histoires. Alors la dernière, ça a duré à peu près 20 ans et la dernière a été celle qui a été la plus importante.
Finalement, vous avez l'impression de découvrir quelqu'un que vous ne connaissiez pas?
Ah mais complètement, complètement. Je ne sais pas qui est mon père. Quand je regarde les photos, je ne sais pas qui est à côté de moi. Je vois la personne physiquement, mais de l'intérieur, je ne sais plus qui il est. Moi, mes 35 ans avec lui sont remis totalement en question. Et ma maman, ses 53 ans de mariage avec lui sont complètement remis en question.
Sybille décrit son père comme un homme charismatique, un notable respecté et très à l'aise en société. Premier adjoint à la mairie de son village, mais surtout directeur de banque pendant plus de 30 ans, c'est aussi lui qui gérait seul le budget familial. À 77 ans, le 29 décembre 2015, l'homme fait une rupture d'anévrisme. Un décès soudain et inattendu, au lendemain duquel Sybille va aller de surprise en surprise.
Donc il est mort un mardi soir et le mercredi matin, il fallait chercher le livret de famille pour l'extrait d'acte de décès. Voilà, donc on cherchait. Et on ne le trouvait pas dans la maison. Pourtant, mon père était ordonné, mais on ne le trouvait pas. Et après, on est allé... Julien est parti, mon ex-conjoint est parti à la mairie chercher, pour, au cas où, comme il avait encore son bureau à la mairie, pour savoir si c'était pas caché là. Et puis, pas de livret de famille. Et voilà. Par contre, on a trouvé une première boîte métallique avec une enveloppe, dossier personnel, ne pas ouvrir. Voilà.
C'est vous qui ouvrez ce...
Oui.
Ouais. Qu'est-ce qu'elle renferme, cette première enveloppe?
Des photos avec, avec sa maîtresse et des factures et des lettres d'amour, voilà.
Vous devez être un peu sidéré de découvrir ça.
Tout de suite, que je l'ai reconnue. Donc tout de suite, on l'a fréquentée pas plus que ça, mais on la connaissait assez bien pour avoir eu des repas ensemble et avoir passé des moments ensemble. Mm-hmm. Oui.
Est-ce que une fois le choc passé de cette première boîte, vous n'avez pas le sentiment que dans votre passé, il y a des choses que vous ne vous expliquiez pas, que...
Complètement. Il y a plein de choses qui refont surface. Il y a plein de choses que je pense à plein de moments où on me disait qu'il prenait ma voiture, qu'on avait vu ma voiture à tel endroit. Puis je disais, mais non, j'ai jamais été à cet endroit-là. Et puis en fait, c'était pas moi qui étais à cet endroit-là. Mais bon, c'était bizarrement pas très loin de chez elle. Voilà. Il y a des choses qui, oui, ça devient évident. Et c'est à ce moment-là qu'on décide de... Moi, je décide d'aller dans le bureau de mon père et de continuer les recherches. Et j'ai trouvé un petit trousseau de clés que j'avais toujours vu, ce trousseau de clés. Je savais qu'il y avait des armoires métalliques dans le garage, que j'avais interdiction de toucher à ces armoires métalliques. Mais voilà, et c'est à ce moment-là, j'ai pris le trousseau de clés et je suis allée directement à l'armoire, aux armoires métalliques. Et là, j'ai ouvert et j'ai trouvé toutes les boîtes.
Combien de boîtes dans ces armoires métalliques?
Alors, à peu près une dizaine en tout. Mais oui, là, c'est les boîtes de l'horreur.
En effet, en explorant le contenu de ces boîtes, Sybille va découvrir l'existence d'une deuxième, puis d'une troisième maîtresse. Trois liaisons extra-conjugales qui se sont succédées pendant des dizaines d'années. Au total, plus de 50 ans de mensonges.
Alors, dans l'armoire métallique, la première, c'est celle-là.
D'accord.
Là, c'est essentiellement des photos, celle-là.
Et donc, des photos de qui
De mon père avec sa maîtresse.
D'accord.
En vacances, en week-end, voilà. Ça, c'est sa première histoire.
Ça a commencé 3 ans après le mariage de votre père.
Oui, 3 ans après le mariage de mes parents et ça a duré une dizaine d'années. Mm-hmm. Il a marqué les dates quand ça a commencé, les dates de la fin.
C'est assez particulier quand même, hein?
Oui, avec des annotations assez particulières et assez blessantes, oui.
Assez blessantes.
Elle a marqué ma vie. C'est des choses qui sont pas agréables à lire. Donc là, y a une photo d'elle.
D'accord. Voilà. Cette femme, par exemple, celle-là, c'est que vous savez?
Non.
Non.
Non, non, non. Non, je pense pas. Je pense pas. Depuis, elle est remariée, elle est mariée, elle a des enfants. Bon, à l'époque, elle était déjà mariée, elle avait un enfant.
Elle était très amoureuse, visiblement.
Je pense.
Parce que des lettres, il y en a. Hein.
Oui, des lettres d'amour, où elle lui explique qu'elle veut faire sa vie avec lui, qu'elle sait qu'il est marié, mais qu'elle s'en fiche et qu'elle veut qu'il quitte ma mère et refaire sa vie avec elle.
Et puis, dans celle-là, ça, c'est la dernière.
Celle-là, c'est la dernière. Mmh. Voilà. Alors là, c'est essentiellement... Voilà. Alors là, c'est là où il y a... Et bien, des factures.
D'accord. Des chèques.
Des chèques, oui.
Alors, des chèques de madame,
oui.
Mais qu'il n'a pas encaissé.
Il
n'a
jamais encaissé.
Comme si elle le remboursait de quelque chose et que lui n'encaissait pas.
C'est ça. C'est ça, parce qu'il devait lui donner de l'argent, je pense, tous les mois. Et elle l'encaissait, il n'encaissait pas.
Le plus choquant pour vous, c'est qu'il y ait des photos prises chez vous.
Oui, là, ça, c'est dans ma chambre, en plus.
Dans votre chambre.
Oui. Je comprends pas comment il a pu l'amener dans notre maison. C'est quelque chose d'aberrant. Mm-hmm. C'est il faut avoir du culot des deux côtés.
Finalement, dans les correspondances que vous découvrez, mm-hmm. Vous sentez que c'était une vraie double vie.
Oui, pour la dernière. Mm-hmm. Oui, la dernière, oui. Il allait au restaurant à côté de chez nous manger avec elle. Il allait souvent chez elle. Il mangeait avec ses enfants. Pour moi, à ce stade-là, de lui acheter des meubles, de lui acheter, de participer à sa vie, de lui acheter de la moquette, j'ai une facture pour de la moquette, réellement tout ça, c'est une double vie pour moi. Mm-hmm. Quand on participe à la vie d'un foyer avec une personne, c'est qu'on s'investit dans ce foyer-là. Mm-hmm. Voilà, donc ça, oui, pour moi, c'est ça qui me choque.
C'est très curieux de consigner sa vie sentimentale comme votre père l'a fait.
Oui, tout était rangé, tout était bien classé, oui, oui, oui.
Ça correspond à quoi ? C'est un trait de caractère de...
Oui, je pense parce qu'il était égocentré, qu'il était très, très sur lui, et je pense que réellement, ça le confortait dans sa supériorité, de dire, voilà, ces femmes-là, elles étaient prêtes à tout quitter pour moi. Je pense que réellement, son côté, c'est un côté pervers, hein, mais je pense que ça correspond bien à son... Ça correspond bien à lui, à sa personnalité. Mmh. Déjà, il gardait tout. Il conservait tout. Voilà, il était collectionneur. Il était très maniaque, très ordonné dans ses papiers. Donc c'est pour ça que ça ne m'étonne pas. Mmh. Je pense réellement qu'il avait envie et qu'on tombe dessus. Il y avait trop de secrets autour de cette armoire métallique et de ces clés.
Comme un défi, en fait.
C'est ça. Par contre, après qu'il ait osé le garder dans la maison de famille, je trouve ça, oui, assez choquant.
Mmh. Qu'est-ce qui a été le pire pour vous, quand vous découvrez tout ça ?
De découvrir que mon père, finalement, c'était pas celui que je connaissais, et que ce personnage-là, je découvrais une autre personne. Je découvrais quelqu'un qui... Toute ma vie s'écroulait, en fait. Je comprenais rien. Je remettais en doute tout, en fait. Voilà, j'étais perdue. J'étais perdue parce que ça remet en question toute mon enfance. J'avais vraiment l'impression qu'on était une famille heureuse, qu'on était vraiment unis, sincères, proches. Voilà. Mmh. Et puis à ce moment-là, on est dans le deuil, on est dans la tristesse d'avoir perdu son père. Mais en même temps, j'étais dans une haine énorme. Donc je pleurais. Mais je pleurais autant parce que je le détestais que autant parce que je l'aimais. Voilà. Donc j'étais vraiment entre deux sentiments. Mm-hmm. C'est fou quand même d'arriver à être un personnage pour tout le monde, en fait. Mm-hmm. Parce que je pense qu'avec elle, il a pas été honnête. Avec nous, il n'a pas été honnête. Avec ses amis, il n'a pas été honnête. Avec ses parents, il n'a pas été honnête. Moi, ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est ma maman et mon papy. Voilà, son père, ça, c'est qu'il ait pu mentir, cacher ça, ces personnes-là, non. Elles ne le méritaient pas, mmh. parce qu'elles ont tout fait pour lui. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est vrai.
Sybille découvre peu à peu l'ampleur des mensonges de son père. Au moment de payer les obsèques, elle s'aperçoit que tous les comptes bancaires sont vides. Ceux de ses parents et jusqu'à ses propres économies. Chez le notaire, elle apprend que son père était interdit bancaire, fiché à la Banque de France et avait accumulé plus de 250 000 euros de dettes. Malgré cela, Sybille ne dit toujours rien à sa mère qui est accablée par la perte de l'homme de sa vie. Pendant des mois, la jeune femme garde le secret, mais son silence va être à l'origine de graves tensions entre sa mère et elle.
À l'ouverture de la succession, il y avait déjà une hypothèque sur la maison avec un crédit immobilier, une autre hypothèque d'un de mes oncles, puis les huissiers qui venaient pour en arriver à un point où on a eu une saisie immobilière, enfin une procédure de saisie immobilière sur la maison.
Parallèlement à ça, il avait fait toute une série de crédits à la consommation,
oui.
où il avait imité et votre signature et celle de votre maman.
Oui, voilà, c'est ça.
Dans quoi il dépensait cet argent ?
Eh bien, il a dépensé son argent, alors, beaucoup en hôtel, en restaurant, en parfums, en bijoux, en meubles, un crédit auto pour deux voitures. Mm-hmm. Bon, finalement, on n'en a qu'une, hein, voiture. Hein, donc,
Votre mère, alors, vous dites que votre mère, pendant 10 mois, a été tendue vis-à-vis de vous parce qu'elle remettait une partie de l'endettement de votre père sur vous.
Oui. Oui, complètement, parce qu'en fait, mon père, depuis quelques années, a toujours dit aux gens à qui il empruntait, à la famille, aux amis, et notamment, surtout à ma mère, en lui disant que j'emprunte parce que Voilà, parce qu'elle me coûte cher, elle me coûte de l'argent. Voilà, donc il empruntait. Quand il empruntait de l'argent pour se justifier, c'était toujours moi.
Vos études, votre voiture, votre appartement.
C'est ça. Par exemple, pour mon appartement, il expliquait que j'avais un appartement de 4 pièces en tant qu'étudiante, alors que j'avais un tout petit studio. Mm-hmm. Il m'a toujours dit, tu n'as pas le droit à la CAF, aux APL. Mais en fait, il les touchait. Il les avait demandés et il touchait les APL. Donc oui, ça a été très dur parce qu'à ce moment-là, ma mère, elle est complètement perdue. Pour elle, les dettes, c'est moi.
C'est dur, ça.
C'est très, très dur.
Mm-hmm. Porter ce lourd secret, surtout face à l'attitude de votre mère qui finalement, vous blesse. Ça n'a pas été trop dur de garder ça pour vous ?
Alors ça a été très dur, mais moi je la blessais aussi, parce que quand elle me disait que son mari était si parfait, si exceptionnel, que ça avait été un très bon mari, un très bon père, et quand moi je lui disais mais arrête, papa c'était pas un saint, arrête, papa il était pas bien, papa c'est pas vrai, maman arrête, et ça elle le comprenait pas. Voilà, donc on était toutes les deux dans un deuil qu'on ne pouvait pas faire. On était toutes les deux dans une souffrance. Et donc notre communication a été très difficile à ce moment-là, vraiment très, très difficile. J'ai tenu parce que l'été, voilà, je travaille en saison. Donc je suis partie pendant 4 mois. Et c'est à mon retour où là, vraiment, je pouvais plus tenir, je ne pouvais plus.
Qu'est-ce qui a fait qu'au bout d'un moment... vous lui avez révélé la situation.
Mais en octobre, elle a commencé à vouloir me parler de la Toussaint et d'aller acheter des chrysanthèmes et d'aller repeindre la tombe de mon père. Parce que ça en devenait obsessionnel. Elle allait tous les jours au cimetière. Elle le pleurait tout le temps. Oui, c'était trop. Et là, je lui ai dit, non mais maman, je ne veux pas. Je ne veux pas repeindre la tombe de papa. Je ne veux pas aller au cimetière. Je ne veux pas lui porter un chrysanthème. Et à ce moment-là, elle m'a fait une réflexion. Elle a dit, mais pourquoi t'es méchante envers on est allé te chercher, justement, on t'a adopté, il t'a aimé, on t'a voulu, on s'est battu pendant 5 ans et demi pour avoir un enfant, on t'a tout donné, on t'a gâté, pourri. Comment tu peux être aussi irrespectueuse envers ton père? Je lui ai dit, écoute maman, viens, on va se poser, et je lui ai donné la première boîte. Alors, elle a juste feuilleté, elle a été choquée, elle est sans pleurs, sans rien, sans aucune expression, aucune parole, rien du tout. Je l'ai pris dans mes bras, je lui ai expliqué, et là, elle m'a dit, mais tu le sais depuis quand? Je lui ai dit, je le sais depuis le lendemain du décès de papa. Moi, je suis blessée en tant que fille. Mais pas en tant que femme, qu'en tant qu'épouse. Donc, on a vraiment toutes les deux une blessure différente.
Oui.
C'est ça, c'est toute sa vie de femme qui est remise en question. C'est son intimité personnelle. C'est affreux. C'est affreux.
Julien est l'ex-compagnon de Sybille. Il fait partie des proches qui ont aidé la jeune femme et sa mère à affronter le choc de ces révélations. Très proche du père de Sybille, il lui faisait lui aussi assez confiance pour prendre le risque de lui prêter plusieurs milliers d'euros.
Comment est-ce que vous considériez cet homme, le père de Sybille ?
Comme un second père, je le considère.
Comme un second père ?
Moi, j'ai perdu toute ma famille. Vous savez, j'ai ma mère qui s'est pendue quand j'avais l'âge de 20 ans. Mon père qui s'est suicidé à petit feu quand j'avais l'âge de 26 ans. Donc, quelque part, à un moment donné, j'ai retrouvé une famille. Mm-hmm. Donc, je l'ai prié également comme une énorme trahison, quoi, d'apprendre tout ça.
Qu'est-ce qui vous a le plus choqué, finalement ?
Qu'il ait manipulé ses propres amis pour obtenir de l'argent en se servant de Sibi et de moi-même comme excuse, par moment. Comme quoi, on n'y arrivait pas, qu'on a besoin d'argent. Donc, c'est comme ça qu'il arrivait à obtenir de l'argent.
Oui.
Alors que non, ça ne nous concernait pas. Mmh. Ça le concernait lui. C'est quelqu'un, je pense, qui savait exploiter beaucoup de failles chez les gens.
Vous pensez qu'il était fin psychologue ?
Oui. Mmh. Suivant le caractère de la personne, il savait très bien manipuler son monde.
Comment il arrivait à faire ça ? Il cloisonnait les choses ?
Il isole la personne pour lui parler. Moi, je me suis retrouvé dans une voiture avec lui en larmes à côté de moi, en train de me supplier, me dire qu'il est dans la merde.
On a l'impression que c'est comme un gourou, cet homme, qu'il vous...
Mais chaque fois, il trouve une excuse, il tape à suivre, comme on dit.
Il tape à suivre. Comme au rugby, en fait.
Exactement.
D'accord. Taper à suivre, ça veut dire on prend le ballon, on tape devant et on voit ce qui se passe.
Ça nous énerve, mais on veut laisser du temps parce qu'on l'aime.
Vous l'aimez, hein. Moi, il y a quelque chose qui aussi m'étonne dans tout ça, c'est que votre mère, elle n'est pas au courant que vous lui prêtez de l'argent.
Non, elle n'est jamais au courant.
Elle n'est jamais au courant, pourquoi ?
Mais parce qu'il a tellement cloisonné qu'elle a vécu dans un monde, dans une prison dorée toute sa vie.
D'accord, une prison dorée.
Ouais. C'est une personne qui n'a pas eu la réalité des choses, de la vie autour d'elle, qui a été fermée, qui était enfermée par son homme, mais qui lui a menti toute sa vie.
Si la vente de la maison familiale a permis de rembourser la quasi-totalité des dettes, il me semble que cette histoire résonne toujours comme une double peine pour Sybille. Au-delà du côté matériel, ce sont les liens affectifs qui la relient à son père qui sont aujourd'hui remis en cause.
Si vous pouviez poser certaines questions aujourd'hui, quelles seraient-elles, ces questions ?
C'est est-ce qu'il m'a aimé ? Est-ce qu'il a vraiment voulu m'adopter ? C'est ça qui me brise le cœur, réellement. Parce que je ne peux pas lui poser la question et je ne saurais jamais si réellement il m'a aimé. Alors je me dis que oui, par moments, et il y a des moments où je me dis que non. Ma mère, il n'y a pas longtemps, elle m'a dit « Mais il t'aimait ton père t'aimait. » Mais je lui dis « Non, j'y crois pas. » Je pleure, mais j'y crois pas. Donc on est vraiment dans ce... On est toutes les deux dans le même questionnement, c'est est-ce qu'il nous a aimés ? Et ça, on n'en aura pas de réponse à ça, malheureusement.
Votre mère, comment a-t-elle réagi en fait à tout ça ?
Pendant quelques mois, elle a fait un déni. Elle y croyait pas, mais en même temps, elle se posait des questions, en même temps, elle cherchait. C'était très compliqué. Mais elle a pris conscience petit à petit. Mais au départ, ça a été tous ses repères ont été complètement chamboulés. Donc elle a vraiment perdu pied.
Et vous ? Est-ce que vous avez réussi à faire le deuil de votre père avec tout ça ?
Un peu, je pense. Je pense que je suis passée une étape. Avec la vente de la maison, oui. C'est grâce à ça que j'arrive à me dire qu'il n'est plus là et que de toute façon, il faut que maintenant qu'on avance. Voilà.
Donc, c'est comme si vous l'aviez laissé dans cette maison ?
Oui. Oui, pour l'instant, voilà, c'est un fantôme. Donc maintenant, je me dis que mon père va peut-être revenir. Les bons moments et les bons côtés de notre vie de famille je vais peut-être pouvoir repenser à lui d'une autre façon.
De manière plus détachée, plus oui. Sereine.
J'espère. Je ne veux pas oublier mon père et je ne veux pas non plus mettre de côté cette histoire parce que elle est là, elle est réelle, elle fait partie de moi. Donc maintenant, c'est surtout que ma mère soit bien et que nous, on avance aussi.
Ça fait du bien d'être dans la vérité, en fait,
oui.
Non ?
Oui, même si elle est dure, même si elle fait mal, même si c'est terrible, même si c'est des moments de souffrance, je sens que ça m'a fait avancer et je vais avancer.
Merci en tout cas, Sybille, de m'avoir accordé de votre temps pour me raconter votre histoire. Vous me tiendrez au courant.
Oui, avec
et
plaisir.
Et puis, vous embrasserez merci. Votre maman et Julien pour moi.
Hein ? Pas de souci.
Au revoir,
merci.
Sybille.
Merci.
Portez-vous bien.
Merci.
En laissant derrière lui les preuves d'une vie de mensonge, cet homme a détruit une bonne partie des repères familiaux de sa fille. Sybille est déterminée à avancer, mais elle sait qu'il lui faudra encore beaucoup de temps pour accepter ce père dont elle n'aura découvert le vrai visage qu'après sa mort. Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une création Europe 1 Studio. Production, Lisa Soster. Réalisation, Christophe Davio. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez cliquer pour vous abonner et être averti dès qu'il y a un nouvel épisode. C'est gratuit. Alors je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très très bientôt.